Tout de suite, le journal.
Le journal, Benoît Bouscarel.
Bonsoir. La libération de Lou Bureau après un peu plus de 50 jours d'emprisonnement. Le journaliste français a été libéré aujourd'hui. Il doit maintenant être expulsé de Turquie et sera de retour en France probablement demain soir. Les précisions de Franck Madvon dans un instant. Dans la page politique de ce journal, la communication, décidément très positive attitude d'Emmanuel Macron en ce moment, analyse de Ludovic Piétenu et la fête de l'humanité depuis ce matin à La Courneuve où se prépare la riposte à gauche. L'invité de ce journal est Pierre Laurent, le premier secrétaire du Parti communiste français, en direct du studio de Radio France dans les allées de la fête de l'UMA. Nous irons également en Espagne dans ce journal. Rien ne va plus décidément entre Madrid et Barcelone à l'approche du 1er octobre, date prévue du référendum d'autodétermination catalan. Correspondance à suivre de Sébastien Berriot. Lou Bureau a donc été libéré, le journaliste qui était poursuivi pour de supposées complicités terroristes et toujours à l'heure qu'il est en Turquie où il a été emprisonné plus de 50 jours durant. D'après son père qu'il a eu au téléphone en début d'après-midi, le jeune homme se dit soulagé, surpris mais aussi toujours prudent tant qu'il n'est pas rentré en France. Un retour qui est attendu pour demain. Franck Madvon.
Si tout va bien, Lou Bureau passera enfin demain soir la nuit en France. Son avocat et ses proches attendent son retour à Paris vers 22h. Le journaliste pourrait quitter Chirnac en début d'après-midi. C'est là, dans le sud-est de la Turquie, qu'il était détenu. La France avait lancé plusieurs appels à Ankara, au président Erdogan, et la justice turque a finalement décidé d'expulser Lou Bureau dans la foulée d'une visite sur place de Jean-Yves Le Drian. Le ministre français des Affaires étrangères a passé un peu plus de 24 heures en Turquie, entre hier et aujourd'hui. Il a notamment été reçu par Erdogan. Manifestement, le travail de la diplomatie française a porté ses fruits. Le Quai d'Orsay parle d'un grand succès. On ignore s'il y a eu un prix à payer. Un diplomate croit savoir que la Turquie, soucieuse de son image, souhaitait en finir avec cette affaire embarrassante. Elle a par ailleurs déjà des relations exécrables avec l'Allemagne. Difficile de se mettre aussi à dos la France.
Franck Madvon. La France et le Qatar disent vouloir travailler de concert pour lutter contre le terrorisme. C'est ce qui ressort du communiqué publié ce soir par l'Élysée à l'issue d'une rencontre entre Emmanuel Macron et l'émir du Qatar, un entretien qui intervient dans un contexte de vive tension entre les pays du Golfe depuis plusieurs semaines. Et justement, Emmanuel Macron a demandé aujourd'hui la levée le plus rapidement possible, je cite, des mesures d'embargo affectant les populations du Qatar. Le chef de l'État qui a décidément eu une journée chargée, il a notamment reçu la délégation olympique française de retour du Pérou aujourd'hui, accompagnée de ses deux prédécesseurs à l'Élysée, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et puis, Emmanuel Macron a promulgué les deux textes de la loi sur la confiance dans la vie politique, signature en grande pompe, qui a eu lieu, fait inhabituel, devant un parterre de journalistes convoqués à l'Élysée pour assister à une cérémonie quasiment trumpienne. Le chef de l'État qui a clairement décidé d'accélérer le rythme et de faire dans le positif. Ludovic Piétenu.
Rester solide, ne rien laisser paraître face à la grogne sociale, au front social qui se dessine un peu plus jour après jour. Aujourd'hui, l'Élysée veut voir le verre à moitié plein avec cette séquence inédite qui a immédiatement fait penser à une cérémonie à l'américaine, à ces lois promulguées devant caméras et photographes.
Il s'agit donc là de deux textes importants que je viens de signer qui sont donc aujourd'hui promulgués.
Voici donc un président qui paraffe et qui, par ce geste, habituellement fait dans la plus grande discrétion, promulgue ces lois censées réduire la défiance entre les Français et leurs élus. Autre séquence que le président a voulu positive, la France et Paris qui décrochent les Jeux Olympiques de 2024, cérémonie organisée sur le champ à l'Élysée et cet extrait du discours présidentiel.
Vous l'avez gagné parce que vous l'avez mérité. J'en ai été le témoin tout à fait objectif. Vous l'avez mérité parce que vous avez su tenir l'unité. L'unité du mouvement sportif. L'unité, c'est aussi celle de la vie politique et des responsabilités.
Voilà Emmanuel Macron qui fait de l'unité son talisman avec à ses côtés les deux anciens présidents. Il veut rassembler les Français, insuffler des messages positifs. Un de ses très proches me disait cette semaine que dans l'état dans lequel se trouve le pays, ce qu'il mène est un combat psychologique. Pendant la campagne, il a pour partie transformé le pessimisme ambiant en attente. Aujourd'hui, il doit combler ses attentes, mais une loi, du pain et des jeux ne seront sans doute pas suffisants pour combler le fossé qui s'est creusé entre les Français et leurs représentants politiques.
Ludovic Piétenu. Et justement, en direct de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, nous retrouvons maintenant un des acteurs politiques français, notre invité, Pierre Laurent. Bonsoir.
Bonsoir.
Premier secrétaire du Parti communiste, vous êtes en duplex depuis les studios de Radio France à la fête de l'humanité qui a ouvert ce matin. D'abord, une réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre, cette accélération du rythme d'Emmanuel Macron, cette communication étonnante. Le mouvement social s'organise et le chef de l'État regarde ailleurs, selon vous ?
Les deux seules choses qui s'accélèrent avec Emmanuel Macron, c'est toujours plus de communication, mais toujours plus de mauvais coups, parce que l'annonce répétée sur les ordonnances, sur le logement, sur la baisse de l'APL, sur la hausse de la CSG, sur la diminution des budgets des communes, voilà, c'est des coups redoublés, c'est ça qui s'accélère. Et après, beaucoup de communication pour essayer de faire oublier le fond d'une politique qui est en train de se révéler être une véritable politique de droite très dure pour les plus fragiles et pour les salariés du pays.
Quand il parle de l'unité, ça pourrait vous parler, ça aussi, l'unité, c'est ce qui fait défaut au mouvement social et puis à la gauche aussi, en ce moment, à l'opposition de gauche.
Enfin, c'est ce qui fait défaut d'abord à la politique d'Emmanuel Macron, qui est en train de diviser les Français et qui joue la division au lieu de rassembler les Français dans un projet de développement du pays. Après, pour ce qui est de l'opposition à Emmanuel Macron, l'unité, elle est en train de grandir, contrairement à ce que j'entends beaucoup. Elle grandit à la base, d'abord, on l'a vu avec la journée du 12 septembre, on le voit avec le succès extrêmement important de la fête de l'humanité, on le voit avec le fait que, contrairement à ce qu'on nous a dit les premiers jours, il n'y a aujourd'hui plus aucune organisation syndicale pour se dire satisfaite des ordonnances. D'accord, elles ne sont pas toutes dans l'action, mais elles émettent toutes, sans exception, des réserves, et certaines sont déjà dans l'action. Donc ça progresse, il y a du boulot, on en fait. À la fête de l'humanité, on a invité toutes les forces sociales, syndicales et politiques qui sont engagés dans ce combat pour justement dialoguer, continuer à construire de l'unité.
Il y a quand même un grand absent cette année, Jean-Luc Mélenchon pour ne pas le citer. Pour l'instant, le mouvement social est éclaté. Pierre Laurent, lundi les routiers, le 21 la CGT, le 23 la France insoumise, le 10 octobre les fonctionnaires. Ça donne un peu l'impression qu'il y a trop de jours dans le calendrier pour qu'une rencontre soit possible.
Énorme, parce que une mobilisation contre de tels projets, ça se construit et ça ne se résume pas à une journée. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup d'actions et progressivement elles vont converger. Et je le répète, la fête de l'humanité justement va être un week-end extrêmement important de ce point de vue-là, parce que nous avons réussi à réunir tout le monde. Il y a un absent, mais il y a beaucoup de présents.
Il y a
énormément de monde à la fête et tout le monde est là, y compris des dirigeants de la France insoumise. Donc c'est ça qui, au bout du compte, devra être retenu de la fête, c'est que la fête a produit un acte de rassemblement qui a mis en dialogue toutes les forces qui doivent être rassemblées. Et nous allons continuer ces efforts, et moi je suis certain qu'ils vont payer.
Parlons quelques instants de l'avenir du Parti communiste. La date du prochain congrès a été avancée. Vous annoncez vouloir une révolution dans le parti. C'est que vous trouvez archaïque le mode de fonctionnement du PC. Il y a urgence à le réformer ?
Non, je crois qu'il y a beaucoup de choses à changer. Pourquoi est-ce que nous, les communistes, on aurait peur de l'audace de nos propres changements ? On a toujours su, au fil de l'histoire, se renouveler. On vit une période politique inédite, qui n'est pas très simple. On n'a pas du tout envie d'abandonner nos idées. Je crois que le communisme et les idées communistes sont en train de retrouver une très grande actualité quand on voit le chaos du monde capitaliste. Mais il faut qu'on sache aussi les développer de manière nouvelle, il faut qu'on change nos pratiques, on a probablement des choses à améliorer, et même sûrement dans notre modèle d'organisation. Vous savez, les communistes, on est tous sauf des conservateurs, donc ça vaut pour la société, ça vaut aussi pour nous. Donc c'est bien normal que dans une période aussi mouvementée, les communistes décident eux aussi de faire en quelque sorte leur propre révolution. Ça ne veut pas dire renoncer à nos idées, ça veut dire se mettre en ordre de marche le plus efficacement possible pour remplir notre rôle dans les conditions d'aujourd'hui. Donc moi, j'ai pas peur de ces changements-là. Et je crois que les communistes doivent avoir de l'audace en ce moment, beaucoup d'audace.
Et en même temps, vous dites, il va falloir changer le nom. Ça, c'est une vieille histoire, déjà, même au Parti communiste. Vous dites qu'il faut un fonctionnement très décentralisé, qu'il ne faut pas faire comme les autres. Mais finalement, tout le monde dit la même chose.
Oui, mais la différence, vous savez, il y a beaucoup de mots qui sont piégés, il y a beaucoup de discours. Mais il y en a, et les communistes en sont, qui ne font pas de différence entre les paroles et les actes. Il y a des gens qui font beaucoup de paroles, beaucoup de discours, mais ils font tout le contraire. Les communistes, on peut peut-être leur reprocher des choses, ils peuvent s'améliorer. Mais il y a une chose qu'on doit leur reconnaître, c'est quand nous prenons un engagement, nous le tenons. Nous le faisons quand nous sommes militants, nous le faisons quand nous sommes élus. Donc nous, la parole et les actes, ça marche ensemble.
Et ben on vérifiera
ça. Et si je vous annonce qu'on va changer le parti, c'est qu'on va le changer.
Merci à vous, Pierre-Laurent, d'avoir répondu à nos questions en direct de la Fête de l'Humanité ce soir avec Adrien Gaza dans nos studios de La Courneuve. L'enquête continue et la traque d'un suspect est toujours en cours à Londres. Londres où ce matin une bombe artisanale a explosé dans le métro faisant au total 29 blessés. Un attentat revendiqué il y a une heure par l'organisation État islamique. Heureusement, l'engin déposé à une heure de pointe n'a pas correctement fonctionné. D'après Theresa May qui s'est exprimée dans l'après-midi, c'est un véritable carnage qui a été évité. Et signe de l'inquiétude qu'a provoqué outre-Manche ce nouvel attentat terroriste, la première ministre britannique vient à nouveau de s'exprimer ce soir pour annoncer que le niveau d'alerte attentat était relevé d'un cran, il passe de sévère à critique. En Espagne, la tension continue à monter à l'approche de la date du 1er octobre. C'est ce jour-là que le gouvernement de la Catalogne indépendantiste envisage d'organiser un référendum sur l'autodétermination. Depuis plusieurs semaines, les autorités espagnoles multiplient les mesures pour tenter d'empêcher cette consultation. Et aujourd'hui, un nouveau palier a été franchi avec l'annonce de la quasi-mise sous tutelle financière de la Catalogne. Les explications de Sébastien Berriot de France Bleu Roussillon.
On a évoqué ces dernières semaines la possibilité pour Madrid de suspendre le statut d'autonomie de la Catalogne et de reprendre le contrôle de la région. On n'en est pas encore là, mais ce qui vient de se passer est clairement une mise sous tutelle. Madrid a donc décidé d'imposer un contrôle très strict sur les finances des institutions catalanes. En clair, tous les crédits que le gouvernement central reverse habituellement à la Catalogne ne transiteront plus désormais par la Generalitat. Les fonctionnaires régionaux seront payés directement par Madrid. Le gouvernement espagnol versera également lui-même les allocations sociales et paiera tous les fournisseurs des services publics catalans. Une manière pour Mariano Rajoy d'assécher les finances du gouvernement catalan. Le ministre espagnol du budget a expliqué que l'objectif était d'éviter que les caisses de la Generalitat financent des activités illégales. En d'autres mots, éviter que le gouvernement régional utilise l'argent versé par Madrid pour organiser son référendum le 1er octobre. C'est la stratégie de Mariano Rajoy qui est désormais claire. Laisser faire le vote, mais tout faire en parallèle pour qu'il ne se déroule pas dans de bonnes conditions. Le résultat sera alors d'autant plus facilement contestable au soir du 1er octobre.
L'Agence européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, aurait-elle triché pour démontrer de manière fallacieuse l'innocuité du glyphosate? Le soupçon pèse depuis que l'EFSA a classé sans risque ce produit chimique et il est d'autant plus fort désormais le soupçon qu'on vient de découvrir que plusieurs extraits d'un rapport de l'EFSA publié en 2015 relèvent du strict copier-coller d'arguments de Monsanto. Un document produit par le groupe américain d'agrochimie, producteur du glyphosate, aurait été repris dans les grandes larges et sans citation par l'EFSA. C'était un rapport expliquant qu'il n'y a aucune raison, évidemment, de classer l'herbicide comme cancérigène. C'est tout à la fois scandaleux et inquiétant pour Suzanne Dahl, elle est chargée de la campagne agriculture chez Greenpeace.
Sur des paragraphes et des pages entières, on retrouve des copier-coller, mais mot pour mot, entre le document soumis par Monsanto et le travail qui a été fait par l'EFSA. Et notamment les sections qui parlent des impacts sur la santé. Donc de tous les problèmes liés à la génotoxicité, au caractère cancérigène et à la toxicité reproductive. Ce qui est en soi absolument scandaleux puisque l'EFSA est censé conduire ses évaluations, ses avis de manière indépendante et émettre des conclusions de manière indépendante.
Faire des évaluations, on va dire objectives.
Oui. Autant que faire se peut. Mais en tout cas, dans un monde idéal, l'EFSA devrait faire en sorte de se prémunir de tout conflit d'intérêts et devrait elle-même réévaluer chacune des études qui lui sont proposées. Et le vote qui va avoir lieu début octobre, au cours duquel les États membres vont devoir se positionner pour ou contre le renouvellement de l'autorisation du glyphosate, ils vont fortement s'appuyer sur les conclusions de cette étude. C'est pour ça que ça a aussi un impact aussi important de découvrir ça. C'est que ça veut dire qu'on se base sur les conclusions d'une étude complètement faussée pour prendre la décision de réautoriser pour 10 ans le glyphosate en Europe.
Des propos recueillis par Véronique Robérotte. Et puis dans l'affaire du Levothyrox, la justice a ouvert une enquête aujourd'hui. Elle a été confiée à des magistrats marseillais suite à de multiples plaintes de malades de la thyroïde qui dénoncent les effets secondaires de la nouvelle formule du Levothyrox. Un temps maussade et des températures automnales demain sur la métropole. Seules les régions du sud seront épargnées et garderont au moins dans l'après-midi des conditions quasi estivales. Les températures minimales s'établiront entre 4 et 9 degrés sur la moitié nord demain matin. Il fera autour de 10 degrés plus au sud, et puis au plus chaud de la journée, en début d'après-midi, on attend de 13 à 18 degrés sur le nord, 24 sur le pourtour méditerranéen et jusqu'à 25 degrés en Corse.